Père, merci pour ton amour, ta bonté, Seigneur, envers nous. Merci pour ta parole, qui est cette lumière que tu as placée dans nos vies pour nous diriger, pour nous orienter, Seigneur, pour connaître ce qui est bon de ce qui est mal, Seigneur. Et on veut te disposer nos cœurs ce matin. On veut t'ouvrir nos cœurs pour que tu viennes y déposer ce que tu as prévu. Seigneur, on ne veut pas repartir comme on est arrivé ce matin. Merci pour ce que tu as déjà commencé de faire dans cette louange. Et Seigneur, nous te demandons de poursuivre ton œuvre, Seigneur, en nous. Transforme-nous et rends-nous encore plus semblables à Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bon, matinée triste, c'est les derniers chapitres de l'évangile de Jean. Bon, par chance, il y a d'autres livres dans la Bible. On va pouvoir continuer et même y revenir. J'espère que vous appréciez, voilà, quand on reste un moment sur un livre, ça permet d'y rentrer un peu plus en profondeur et d'avoir une vue un petit peu plus général. Bien sûr, c'est mission impossible de traiter tous les sujets d'un livre. C'est trop riche. On n'aurait pas assez de dimanches, ou alors il faudrait qu'on y reste probablement plusieurs années. Mais voilà, c'est important aussi de lire le reste de la Bible. On arrive donc au chapitre 20 et 21. Ceux qui n'ont pas pris le temps de le lire, je vous encourage à le faire peut-être cet après-midi ou ce soir. Voilà, prenez le temps de le lire parce qu'on ne va pas faire une lecture suivie ce matin, mais on va sauter d'un passage à l'autre et puis vous allez voir. Donc nous avons parcouru cet évangile qui raconte bien l'histoire de Jésus, bien sûr, et des premiers disciples, mais contrairement aux autres, ben Jean s'est focalisé sur certains récits, des récits particuliers. Et des récits d'ailleurs que lui seul va mentionner, contrairement aux autres évangiles. Et il va avoir une approche plus explicative de certains points théologiques, alors que les autres auteurs vont avoir plutôt une approche de récit, une approche historique. Il utilisera aussi beaucoup la dimension symbolique des événements. Je ne sais pas si vous vous rappelez la piscine de Bethesda ou la résurrection de Lazare, etc. Même si, bien sûr, tous ces événements sont historiques, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment eu lieu. Je crois qu'on peut retenir... Je commence par une introduction large avant de rentrer dans les chapitres. Je crois qu'on peut retenir de cet évangile que Jean a largement développé un thème central, c'est celui de l'amour. L'amour du Père et l'amour de Jésus. Et comparativement aux autres évangiles, eh bien on peut voir que c'est vrai. Vous savez, il y a trois mots en grec qui parlent de l'amour. Il y a un mot, c'est Eros, qui est totalement absent de la Bible. Et puis, il y a deux autres mots, c'est agapao ou agapé et phileo. Et si on compare, vous voyez, c'est assez flagrant que dans l'évangile de Jean, le mot amour est vraiment très, très présent. Tant pis pour ceux qui écoutent simplement le message. Ils n'ont pas le visuel. Pour notre culture personnelle, on peut changer de slide, certains fragments de papyrus, qui sont des copies de l'évangile de Jean, datent d'environ 135 à 150 après Jésus-Christ. Et ce sont les fragments en fait, les plus anciens retrouvés à ce jour du Nouveau Testament. Ce qui correspond à peu près à peine 35 ans après la mort de l'apôtre Jean. D'accord ? Du coup, pourquoi je partage ça? Ben, tout simplement parce que c'est la preuve que les évangiles circulaient très tôt dans l'Église, puisque ben, on a la trace de ce papyrus. Et en fait, il date de la période des pères que l'on dit apostoliques. Après, je ne vous embête plus avec les gros mots. D'accord? Les pères apostoliques, c'est tout simplement les disciples, les premiers disciples des apôtres. D'accord? Et donc, il y a un disciple de Jean, je l'ai mentionné en dessous, qui s'appelle Polycarpe, donc qui a vécu de 69 à 155, qui était un témoin, voilà, de l'apôtre Jean, et qui fut nommé ancien à Smyrne, et qui est une des villes d'ailleurs de la sphère apostolique de Jean, et on retrouve son nom dans le chapitre 2 de l'Apocalypse, vous savez, la lettre aux sept églises. Voilà, c'était juste un petit point historique, mais c'est intéressant de savoir que voilà, très tôt et dès les premiers disciples, eh bien, on voit que les évangiles circulaient, et notamment celui de Jean. C'est aussi dans cet évangile que Jean va prendre le temps de développer le thème de la personne du Saint-Esprit et de son don précieux fait aux croyants. Voilà pour quelques particularités de l'évangile de Jean. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Et la semaine dernière, vous avez étudié le récit de la Passion avec Luc, qui a fait un super travail. Vous avez parlé de la mort sur la croix de notre Seigneur Jésus, juste avant la Pâque. Et ça s'est terminé avec la mise au tombeau. Aujourd'hui, on va continuer et j'ai essayé d'organiser en trois parties, complètement déséquilibrées comme d'habitude, excusez-moi, où la partie 1 est plus longue. Le titre de la première partie, c'est Le silence. Et on va voir pourquoi. Nous sommes donc vendredi soir. Il s'est passé un événement météorologique bizarre, si vous vous rappelez. Un peu comme une éclipse solaire. L'obscurité est venue. La terre a tremblé. Et Jésus a poussé son dernier souffle. Les soldats se sont assurés qu'il était bien mort, avec un coup de lance dans le flanc. Et Joseph, ce Joseph d'Arimathée, et Nicodème, sans doute aidés par d'autres, l'enveloppent dans un linge. On l'amène dans un tombeau, la pierre est roulée, et le tombeau est fermé. Si vous avez déjà été présent à des obsèques, ben je pense qu'on peut comparer ce moment avec ce qu'on appelle la mise en bière, la fermeture du cercueil. La pierre est roulée. Et je voulais nous faire réfléchir ce matin, en premier lieu, sur ce moment qui va du vendredi soir jusqu'au dimanche matin. Première question, que disent les évangiles dessus? C'est pas une question de piège. Merci. Rien. C'est le silence complet. Mais d'après nous, qu'ont ressenti les disciples? Qu'ont ressenti tous ceux qui avaient suivi Jésus? Sûrement, on peut passer de la tristesse. Sûrement de la tristesse. Celui qu'ils aimaient, celui qui les enseignait avec tant de zèle et de vérité, celui qui les guidait et qui donnait du sens à leur vie, a disparu. Ce Jésus qui avait toujours une parole encourageante, toujours une parole de réconfort et de foi, n'est plus à leur côté pour les soutenir. Après un événement difficile ou tragique dans nos vies, il est normal de ressentir de la tristesse. Cette tristesse peut être très forte et parfois nous conduire à être complètement abattus. Et alors, c'est si dur que on peut même en venir jusqu'à crier à Dieu. Et littéralement, nous crions à Dieu pour que Dieu nous sorte de cette tristesse. Mais parfois, comme dans le texte de ce matin, Dieu fait silence. Ils ont pu aussi ressentir de l'incompréhension. Pourquoi lui ? Ils n'avaient pas compris encore. Pourquoi lui ? Il est doux. Il était doux, humble, plein d'amour. Il ne faisait que le bien autour de lui. Parfois, nous pouvons faire face à des situations semblables dans nos vies, où ce sentiment, vous savez, d'injustice est si fort. Pourquoi, Seigneur ? Si vous n'avez jamais vu ma chérie, Irina, en colère, elle n'est pas là, elle est aux enfants, j'en profite. Mettez-la dans une situation qui sent l'injustice. Et là, vous n'allez plus reconnaître ma chérie. Ce n'est plus la même personne. Ses origines ukrainiennes font surface et la guerrière cosaque enfouie est bien réveillée. Vaut mieux ne pas être à l'origine de l'injustice en question. Elle ne craint plus personne. Voilà, c'était juste un petit interlude pour que vous ayez compassion de moi. J'espère que ça fonctionne. Mais ceci dit, c'est très vrai. Mais revenons à notre texte. Qui ne s'est jamais posé des questions du style « Pourquoi m'arrive-t-il tel ou tel malheur ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis que cela m'arrive à moi. » Dans le psaume 28, David crie. Je ne vais pas crier, mais lui, il crie. « Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois comme ceux à ceux... » Pardon. J'ai perdu ma ligne. « Semblable à ceux qui descendent dans la fosse. » Je ne veux pas être comme eux, Seigneur. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques. On entend ce cri d'injustice. Malachie 3, à partir du verset 14. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu. Oui, ils échappent. Waouh ! Oui, parfois, nous devons faire face à un fort sentiment d'injustice dans nos vies. Et ce que l'on ressent peut être très fort à l'intérieur de nous. Nous crions alors à Dieu. Nous appelons les frères et les sœurs pour supplier ensemble. Et parfois, Dieu garde le silence. Je pense qu'ils ont aussi ressenti de l'anxiété et de l'angoisse. Il est facile d'imaginer que les disciples commençaient à ressentir une forme de stress. Que va-t-on faire maintenant? Quel est notre avenir? Nous avons laissé tant de choses pour suivre Jésus pendant ces 3 années. Que va-t-on devenir? Et si on nous reconnaît et qu'on nous attrape, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va être mis à mort comme lui? Parfois, certains événements de la vie nous plongent dans ce genre de raisonnement. Que ce soit suite à un changement d'emploi, un déménagement, la perte d'un soutien proche, l'anxiété arrive à grands pas. Et vous savez quoi? Je crois que nous sommes, nous, les hommes et les femmes, la plus belle machine à fabriquer de l'anxiété, de toute la création. Vous savez quelle est la phrase qui est répétée au moins 365 fois dans la Bible? Ne crains pas ou n'aie pas peur. Probablement que nous avons besoin de l'entendre tous les jours, car le stress ou l'anxiété nous gagne si vite. Parfois, nous lisons quelques versets, mais l'anxiété persiste. Nous prions, mais Dieu semble garder le silence. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est la solitude. Jésus n'est plus visible. Le tombeau est fermé. Et très certainement, les disciples ont ressenti ce vide autour d'eux, qui parfois survenait, mais temporairement. Vous savez, quand Jésus s'éloignait pour aller prier. Mais c'était quelques heures. Cette fois-ci, ils savent qu'il ne reviendra pas. Ils n'auront plus ses conseils, ses directions, les miracles si nombreux. Ils se retrouvent seuls pour affronter la suite. Si je vous disais, vous pouvez regarder autour de vous, qu'au moins 20 personnes dans l'église se sentent seules. Et si on compte que les adultes. En 2013, 12% des Français se trouvent en situation d'isolement. 2023, pardon. C'est les statistiques de 2023. 12% des Français se trouvaient en situation d'isolement total. Et en ce qui concerne le sentiment de solitude, une personne sur 5, 21%, indique se sentir régulièrement seule. Parfois, face à ce sentiment, nous prions. Et même Dieu semble nous laisser seuls et garder encore une fois le silence. Mais Jésus avait-il vraiment disparu? On peut se poser cette question. Est-ce lui qui a lâché la main de ses disciples? Ou est-ce nous, parfois, qui lâchons la main de Jésus quand nous traversons ces moments-là? Je crois que si on regarde par exemple à Pierre, l'apôtre, Pierre avait lâché la main de Jésus par 3 fois. Il avait renié son Seigneur face à l'adversité. Mais Jésus, lui, était toujours là. Alors, je sais que vous attendez la suite. Quand je suis pris dans le cours de la vie par ces choses-là, par la tristesse, par l'incompréhension ou l'injustice, par l'anxiété ou la solitude, et que malgré toutes mes prières, Dieu garde silence. Comment dois-je réagir? Que dois-je faire? Au regard de ce que je crois être la réponse, je devrais arrêter le message ici et vous donner rendez-vous dimanche prochain. Par chance, ce n'est pas moi qui vais prêcher dimanche prochain, c'est Andrew. Quelle est la réponse face à cela? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Je pense que ça ne va pas nous plaire. On y va. On va lire dans Jacques. Jacques 1. Mes frères, on peut entendre aussi mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il a un problème, Jacques, non? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu fait silence dans certaines situations afin que nous nous exercions à la patience. Je vais le redire parce que je crois qu'on ne l'entend pas assez souvent dans notre société aujourd'hui. Dieu fait silence dans certaines situations de nos vies afin que nous nous exercions à la patience. Avec le boom des technologies dans le transport, il est possible de faire le tour de la Terre en quelques heures. Demandez à Andrew, il n'est pas là, mais demandez à Megan, qui passe de l'Angleterre au Costa Rica, des Pays-Bas aux Philippines, tout ça parfois en moins d'un mois. Avec le boom des réseaux et maintenant de l'intelligence artificielle, il est possible d'accéder à une quantité d'informations et de contenus colossales. C'est impressionnant. Tout va très vite autour de nous. Est-ce qu'on s'en rend compte? Tout va très vite. Et j'ose le dire ce matin, les jeunes entendaient-le bien, tout va trop vite autour de nous. Tout va trop vite aujourd'hui autour de nous. Être chrétien, marcher par la foi, vivre selon la parole de Dieu prend du temps. Je vais radoter ce matin. Être chrétien, marcher par la foi, vivre selon la parole de Dieu prend du temps. Et parfois, beaucoup de temps. Je dirais même toujours beaucoup de temps. Malgré cet emballement apparent autour de nous, vous savez quoi? La nature humaine n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Elle est toujours pécheresse. Elle est toujours opposée et rebelle à Dieu, cherchant plus à faire le mal que le bien, nous attirant toujours plus vers l'égoïsme, l'impudicité, l'amour de l'argent, etc. La nature humaine n'a pas changé. Oui, nous avons appris à l'éviter, à la fuir, à la cacher, mais elle n'a pas changé. Elle est toujours là. Changer notre être intérieur, travailler notre caractère afin de développer le fruit de l'esprit prend du temps. Ça prend du temps. C'est long. Et vous savez, Dieu est patient. Dieu est patient. Et comme il veut que nous lui ressemblions, il nous invite et nous pousse aussi à la patience. Et parfois, il utilise les épreuves que l'on traverse. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit fait pousser à l'intérieur de nous. D'accord ? C'est ça le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Il y est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous êtes toujours là ? La patience. Deuxième point, la foi. Enfin, il n'est pas resté dans le tombeau. Et la foi dans le ressuscité. Comment développer cette patience dont nous venons de parler ? Eh bien, en développant notre foi dans celui qui est ressuscité. On va lire Jean 20, versets 15 et 16. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » C'était une dame qui s'appelle Marie. Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Ça laisse un peu d'intrigue sur ce que je vais partager. Nous avons l'avantage de connaître la suite de l'histoire. Jésus n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. Et face aux moments de silence qui peuvent survenir de temps à autre, nous pouvons patiemment espérer en celui qui est ressuscité. D'accord ? Aujourd'hui, c'est plus facile que pendant cette période de temps du vendredi au dimanche. Parce que nous savons qu'il est ressuscité. Dans 1 Corinthiens 15, Paul va nous dire qu'il prêche la résurrection de Christ. Car sinon, notre foi est vaine. Et dans Philippiens 3, il va dire, au verset 10, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Ce n'est pas parce qu'il existe des temps où Dieu semble silencieux qu'il ne prépare pas un puissant bouleversement, une puissante transformation, même s'il le fait en secret, à l'abri des regards. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et par le don de la foi en Christ, il a bouleversé l'histoire de l'humanité. Waouh ! Qu'est-ce qu'il a fait Dieu pendant ce moment de silence ? C'est juste extraordinaire. La foi dans notre Seigneur Jésus, le ressuscité, est suffisante pour changer, transformer, bouleverser non seulement les situations de nos vies, mais nos vies toutes entières. Et bien plus, le monde tout entier. Amen. La foi dans la puissance de la résurrection, parce qu'il est le ressuscité. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. En comprenant que le silence après une épreuve peut faire partie de notre marche dans la foi, nous pouvons persévérer dans la prière. et dans la foi, en espérant avec assurance que Jésus brise enfin le silence. D'accord ? Je ne suis pas en train de vous dire que Jésus va rester silencieux le reste de notre vie, c'est pas ça. C'est dans un temps limite, dans un moment, parfois, Dieu peut être silencieux. Et alors la patience doit arriver. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le passage que j'ai lu, de versets 15 et 16, à quel moment Marie reconnaît la voix de Jésus. Est-ce que c'est quand il lui dit « Pourquoi es-tu triste ?» ou quand il lui dit « Pourquoi tu te sens seule ?» Est-ce que c'est là que Marie l'a reconnue ? Non, là, elle s'est dit « Tiens, c'est le jardinier qui me parle. » Curieux, hein ? Et pourtant, c'est pas ça qu'elle attendait ? C'est pas ça ? Que Jésus vienne toucher sa tristesse, sa solitude ? Non, c'est pas là. C'est à quel moment ? C'est quand il lui dit « Marie ». Waouh ! C'est quand il lui dit « Marie, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons, ce dont nous avons le plus besoin, ce ne sont pas des explications de texte comme je suis en train de vous faire ce matin. Ce ne sont pas des réponses au pourquoi du comment. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'entendre Jésus nous appeler à lui par notre nom. Ce dont nous avons le plus besoin, frères et sœurs, c'est d'entendre Jésus nous appeler à lui par notre nom. Nadia, Damien, Nathan, même s'il n'est pas là, il est à côté. Seigneur, c'est si bon, quand nous entendons ta voix et quand ta voix nous appelle, Seigneur. Je te prie pour cette grâce particulière ce matin, pour plusieurs, qu'ils puissent entendre le son de ta voix, les appeler à toi, Seigneur. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est suivre Jésus. C'est le dernier chapitre, c'est le chapitre 21. Au verset 19 et 22, Jésus va dire par deux fois, « Suis-moi, toi !» Je pense qu'en conclusion de l'évangile de Jean, il est bien de se rappeler cet appel de Jésus dans chacune de nos vies. Dieu nous a sauvés pour que nous nous sentions mieux. Ah non, c'est pas ça. Pour que nous ayons une meilleure voiture. Non plus. Dieu nous a sauvés pour une chose essentielle, les amis. C'est pour nous donner à Jésus. Dieu nous a sauvés pour nous donner à Jésus, afin que nous lui appartenions. Pardon, je ne suis pas trop dans la théologie du développement personnel ce matin. Nous sommes sauvés pour lui. Romains 14, verset 8, si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Quelle foi. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Je crois que si nous comprenons ça dans notre vie, nous avons tout compris. si tu comprends que tu appartiens à Jésus, tu as tout compris dans le christianisme. Parce que c'est la clé de tout. Ainsi, la marche du chrétien consiste, vous êtes réveillés, en quoi ? Se dépouiller du vieil homme. On n'en parle pas assez souvent de celui-là. Hein. Se dépouiller du vieil homme. Abandonner sa vie passée. Il y en a plusieurs qui sont jeunes dans la foi parmi nous. Je voudrais que vous l'entendiez ce matin. Mais les vieux aussi, hein, dans la foi, on a besoin de l'entendre. Laisser notre vieil homme et se dépouiller, c'est-à-dire l'enlever. Laisser plein de choses de notre vie passée qui ne sont pas ce que Dieu veut pour nous. Et il y en a plein des choses. Il y en a plein des choses dans nos vies passées. Afin d'apprendre à marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire à marcher en Christ, à marcher par Christ et à marcher pour Christ. Le dernier chapitre de l'évangile de Jean décrit le ministère pastoral. Si vous, ceux qui ont pris le temps de le lire, il va y avoir tout un discours entre Jésus et Pierre. « M'aimes-tu ? Paie mes brebis. » M'aimes-tu, paie mes brebis. C'est ce ministère de berger qui conduit le troupeau, d'accord ? Les agneaux, les brebis. Ce troupeau dont Jésus est le grand berger. Et voici la conclusion de ce ministère. C'est en Jean 21, au verset 18. Ça ne va pas nous plaire encore. En vérité, je te le dis, Jésus parle à Pierre, quand tu étais plus jeune, quand tu venais de te convertir, tu te saignais toi-même, ça veut dire tu mettais ta ceinture tout seul, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Mes amis, suivre Dieu, suivre le Seigneur Jésus est à la fois la chose la plus merveilleuse qui puisse nous arriver. C'est la chose la plus merveilleuse que l'on puisse découvrir. Et en même temps, c'est la chose la plus difficile. Dieu ne va pas nous conduire dans les plaisirs éphémères de la vie. Je suis désolé si on vous a fait croire cela. Dieu ne va pas te conduire dans les plaisirs éphémères, vous savez, qui ne durent pas, qui n'ont aucun sens de la vie. Même s'il nous accorde, bien sûr, beaucoup de plaisir alors que nous le servons. Dieu ne va pas nous conduire dans les désirs de la chair. Dieu veut nous conduire dans la vie éternelle, dans le royaume du Fils de son amour. C'est là où il nous emmène. Et vous savez quoi ? Naturellement, on n'a pas envie d'y aller. Je le redis parce que je pense qu'on n'en a pas assez conscience. Naturellement, on n'a pas envie d'aller dans le royaume du Fils de son amour. L'apôtre Paul va le dire différemment. Il va dire « Les désirs de la chair sont inimitié, ennemi contre Dieu. naturellement, nous n'irons pas dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous y conduise. Nous avons besoin que Jésus nous saigne de sa ceinture et qu'il nous amène là où lui, il veut. Pas là où moi j'ai décidé de conduire ma vie. Si tu viens d'arriver au Seigneur, que tu découvres la foi, là il y a une clé pour ta vie. Plus vite tu comprendras que c'est lui le Seigneur et que ce qu'il y a de mieux pour ta vie, c'est ce que lui il veut, plus vite tu auras une vie heureuse. Tu auras une vie remplie de sa présence. Tu verras des choses et des transformations extraordinaires dans ta vie. Et c'est bon de se le rappeler aussi à nous, les plus vieux chrétiens. Là où Jésus nous emmène, c'est pas toujours et c'est souvent pas là où on a envie d'aller. Alors je pourrais rester très vague, mais si on l'applique à nos vies de tous les jours, je peux vous dire que ça devient très concret. Quand je rencontre une fille et que je veux me marier avec elle et que la Bible et Dieu me disent non, 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 ce ne sera pas avec elle, ah là, ce n'est pas la même chose. Là, je vais relativiser ce que Jésus veut pour moi. Quand Dieu me demande d'arrêter de mentir, de tricher ou de faire quelque chose de mal, là, ce n'est pas pareil. C'est beaucoup plus difficile. Et pourtant, la chair est ennemie de Dieu. Et Dieu, lui, veut nous conduire dans son royaume à lui. Vivre le royaume de Dieu ne se fait pas sans renoncement, sans tourner le dos au péché pour lequel notre bien-aimé Jésus est mort. Ça ne peut pas se faire sans cela. Vivre conduit par l'Esprit de Dieu, c'est être capable de dire Galates 2:20. Est-ce qu'on est capable de dire Galates 2:20 en comprenant le sens de ce que Paul dit là? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je le répète, vivre par l'Esprit, c'est être capable de dire et de vivre Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En résumé, pour ce matin, parfois, il arrive que Dieu fasse silence. Encourageons-nous, les amis, encourageons-nous alors par la patience, bien sûr par la prière, mais par la patience aussi. Développons de la persévérance dans la prière, dans la lecture de la Bible. Je prie, je n'ai pas l'impression que Dieu a répondu à ma prière, et ce n'est pas le moment de baisser les bras et d'aller faire autre chose. Non, tu restes là et tu pries encore. D'accord ? Et si tu n'as pas la force, tu vas chercher un frère et vous priez tous les deux. Encore. Et si ça ne suffit pas, tu en prends un troisième et un quatrième. D'accord ? C'est ça la persévérance. Et c'est ça le fruit de la patience. Pourquoi ? Parce que nous avons foi, parce que nous espérons, nous attendons la réponse du ressuscité. Parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. D'accord ? Parce qu'il ne gardera pas le silence toute ma vie. Et parce que la puissance de la résurrection est capable de transformer complètement ma vie. Il n'y a aucune situation dans laquelle Dieu n'a pas de réponse. Et parfois, la réponse dont on a le plus besoin, c'est Marie. Je suis là. Parfois, ça suffit. Ça suffit de le savoir en nos côtés. Et c'est à ce moment-là que le cœur de Marie... Jésus, Rabouni, elle a dit. Vous le lirez. Elle a dit Rabouni. Vous voyez son cœur? Parce que juste il a dit Marie. Laissons-le transformer nos vies et nous diriger. Pas là où on veut, là où il veut. Laissons-le transformer nos vies et nous diriger là où il veut. Amen. Est-ce que c'est un amen sincère? Je propose qu'on prenne un chant pour finir, si l'équipe de louange veut bien, et qu'on puisse chanter de tout notre cœur, et je laisse Pierre continuer la suite.